messieurs et dames, c'est vendredi. Printemps et plaisir pour coûter des mots quatre paroles de 20 à 21h30. Des mots quatre paroles, bonne la voix sur le 88.4. Coûter et entendre, tout plaisir en nous, là.
Pas même Jean Bécro, nous changer l'esprit du fond. Pareil les autres finis joignent, avec Aïe ou pas ça vous sauver. Alors toi tu profites, compagnie, plus bon de l'humilité.
Nous d'après nous, le gars de l'Ouest si ça veut. Et nous t'avons pas avancé, pas mon qui pas même ça vous l'aillez. Nous d'après nous, le gars de l'Ouest si ça veut.
Ou décréter au rivé, parce qu'il n'y a pas de fonction limitée. Origine ou massacré, quand t'as déjà pas même parlé.
Nous caillons, d'après nous, le gars de l'Ouest si ça veut. Mais nous t'avons pas morceau, pas nous qui pas même ça pour l'aider. Nous caillons, d'après nous, le gars de l'Ouest si ça veut. Mais nous t'avons pas morceau, pas nous qui pas même ça pour l'aider.
Bonsoir, bonsoir à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Radio Galère sur le 88.4 FM, sur le canal 8C en DAB+, sans oublier celles et ceux qui nous écoutent en podcast ou via notre fenêtre ouverte sur le monde www.radiogalère.org. L'équipe d'animation de l'émission caribéenne est très heureuse de vous retrouver sur les ondes de Démo 4 Paroles sur Radio Galère et partout dans notre tout monde grâce à la diffusion en ligne. Nous vous rappelons que Démo 4 Paroles est diffusé le deuxième vendredi de chaque mois de 20h à 21h30. Nous tenons à adresser un chaleureux remerciement à notre fidèle ami et technicien Sidi, toujours présent avec professionnalisme, attention et bienveillance, pour garantir la qualité technique et la fluidité de nos émissions. Sans lui, la magie des ondes serait bien plus fragile. Un grand merci également à Maurice, animateur de l'émission Ponche Rétro Caraïbes, diffusée le samedi matin, qui relaie régulièrement nos communiqués et soutient nos initiatives. Please, Foss. Et bien sûr, salutations à ces nombreux aficionados, fidèles au rendez-vous chaque samedi matin. En ces temps troublés, marqués par les incertitudes et les turbulences du monde, nous vous proposons ce soir une respiration, une bouffée d'oxygène intellectuel et sensible à travers la rencontre, par la pensée et par les mots, de deux grandes femmes caribéennes. Deux trajectoires, deux générations, deux manières d'habiter le monde. Françoise Zega, martiniquaise, femme de lutte, écrivaine engagée et témoin lucide des réalités sociales de la diaspora antillaise en France. Et Maryse Condé, guadeloupéenne, immense romancière dont l'œuvre a traversé les continents et interrogé avec force les mémoires coloniales, l'identité et la liberté. Ce soir, aux côtés de notre ami Jojo, que l'on ne présente plus, Jean-Marc, Guy, Jean-Pierre et moi-même, Gary, nous poursuivons ce travail de parole et de musique qui est au cœur de notre démarche. De notre émission précédente, nous avons déjà esquissé la biographie de Maryse Condé, en la mettant en perspective dans une dynamique fanonienne, c'est-à-dire à la lumière des analyses de Frantz Fanon sur l'aliénation, la conscience et la décolonisation. Ce regard nous permet de mieux comprendre combien sa trajectoire de vie, marquée par les voyages, l'exil, l'enseignement et la littérature, diffère de celle de Françoise Zega, ancrée dans une expérience plus directement liée aux réalités sociales et aux combats du quotidien.
Mais au-delà de leurs différences, ces deux femmes se rejoignent dans une même exigence, dire le monde caribéen, dire ses blessures, ses résistances, ses espérances. Nous n'allons donc pas les opposer. Nous tenterons plutôt de mettre en lumière les échos, les correspondances, les complémentarités qui traversent leur parcours et leur œuvre. Leurs œuvres, parce qu'il y en a plusieurs. Cette réflexion prend un relief particulier au lendemain de la Journée internationale des droits des femmes, moment privilégié pour rappeler combien les voix féminines ont contribué à penser, à écrire, à transformer nos sociétés. Nous explorerons certaines différences apparentes entre Françoise Zega et Maryse Condé, mais ces écarts ne sont pas des oppositions. Ils dessinent plutôt des chemins différents qui se rejoignent dans une même quête de dignité, de vérité, de liberté.
J'ai brûlé qu'on savonne, les couches la sang, tout fait réfléchir. Panimanié pour s'ispanne, un goulant mort qui embouche les. Nous voyons douleur qu'à songer, pays d'un mer. Et celle en vos yeux te rete la face d'un mer.
Powell, en votre compagnie, nous venons d'écouter Aïdjéré, interprétée par Jocelyne Berroir, une voix majeure de la Caraïbe. Dans cette chanson, comme dans beaucoup de musique antillaise, il y a la mémoire, le rythme, la langue et cette manière très particulière de raconter le monde caribéen. Et c'est justement ce que l'on retrouve aussi dans l'écriture de Françoise Zega et de Maryse Condé. Chacune à sa manière donne voix à l'histoire, aux blessures, mais aussi aux résistances et aux expériences, aux espérances de nos sociétés. Françoise Héga et Maryse Condé sont toutes deux nées sous la Troisième République, dans un contexte colonial encore très marqué par l'héritage de l'esclavage et par la politique d'assimilation menée par la France. Deux grands principes structurent alors la politique coloniale française. D'abord, celui de l'exclusif colonial. Les colonies doivent commercer avant tout avec la métropole. Ensuite, le principe d'assimilation, selon lequel les territoires colonisés sont appelés à adopter les lois, les institutions et la culture de la République. Françoise Héga et Maryse Condé grandissent dans ce contexte. Elles sont nées dans des territoires qui ont encore le statut de colonie française, où les traces de l'esclavage demeurent vivaces. Il faudra attendre la loi de départementalisation du 19 mars 1946 pour que la Martinique et la Guadeloupe deviennent officiellement des départements d'outre-mer, le préfet remplaçant le gouverneur. Mais bien avant cette transformation politique, les Antillais avaient déjà largement contribué à l'histoire de la France. Des Martiniquais et des Guadeloupéens participent ainsi à l'expédition française au Mexique entre 1861 et 1867, puis des milliers d'entre eux sont mobilisés pendant la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918. Leur engagement se poursuit ensuite lors de la Seconde Guerre mondiale entre 1939 et 1945. Autrement dit, lorsque la départementalisation arrive en 1946, elle intervient après des décennies de participation et de sacrifices. Une histoire souvent méconnue mais essentielle pour comprendre la place des Antilles dans l'histoire de la République. Une fois circonscrit le contexte historique pour mieux appréhender la trajectoire de nos deux femmes inspirantes et puissantes, Françoise et Maryse, nous démarrons par l'aînée des deux écrivaines caribéennes, Françoise Héga. Qui est-elle?
Françoise Héga, de son nom de jeune fille, Françoise Marcel Modoc. Elle naît le 27 novembre 1920 au Morne Rouge, en Martinique, alors colonie française, et elle meurt le 7 mars 1976 à Marseille. Écrivaine, militante sociale, Françoise Héga s'engage avant tout pour la dignité, pour les droits des populations antillaises, mais pas que. Même si les questions politiques ne sont jamais loin lors de ses préoccupations. Elle est membre du PCF. Installée à Marseille, elle s'implique activement dans la vie de la communauté antillo-guyanaise et dans celle de son quartier, notamment la Bucherine. À l'époque, il y avait un gros problème d'école. Les enfants, ils étaient dans des préfabriqués. Et Françoise Héga ainsi qu'un certain nombre de gens avaient manifesté auprès de la municipalité pour faire en sorte qu'il y ait une vraie école, pas de préfabriqué, d'autant plus que dans ces préfabriqués étaient très mal isolés, et donc froid l'hiver et chaud l'été. Enfin, pas tout l'été puisqu'il y a les vacances, mais on avait le temps d'avoir chaud. Elle aidait les familles dans leurs démarches administratives. C'est une dame qui avait sa porte toujours ouverte et qui aidait les gens à remplir leurs papiers administratifs. On sait ce que c'est, l'administration. Et elle ne regardait pas la couleur des gens qui venaient lui demander. Elle participe à la création... Ah oui, elle organise aussi un soutien scolaire avec les étudiants antillais, des étudiants d'Aix. Et participe à la création d'associations destinées à rassembler les populations venues des Antilles et de Guyane. Son engagement se situe dans un contexte historique particulier. Dans les années 60, l'État français met en place ce qu'on appelle le Bumidom, créé en 1963 par Michel Debré. Et ce Bumidom avait le but d'organiser la migration des habitants des départements d'outre-mer, c'est-à-dire Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion. C'était une façon de vider un peu le pays où le chômage sévissait et où la colère commençait à gronder. Ce dispositif, destiné notamment à répondre aux difficultés économiques et sociales, marque profondément toute une génération de migrants. Alors, le Bumidom, pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas, c'était une organisation qui incitait les gens, étant donné qu'ils n'avaient pas de travail, on leur promettait des emplois en France, une formation et un salaire. Donc, étant donné que beaucoup de gens étaient en difficulté, ils étaient intéressés par cette offre. Mais ce qu'on ne leur dit pas, c'est qu'arriver sur place, ce n'est pas tout à fait ce qu'on leur avait promis. Alors, c'est surtout par l'écriture que Françoise Héga fait entendre sa voix. En 1966, elle publie « Le temps des madrasses », un récit autobiographique qui raconte son enfance en Martinique, marquée par la disparition précoce de son père et par le courage de sa mère pour élever seule ses enfants. Son œuvre la plus connue reste « Lettre à une noire », publiée à titre posthume en 1978. Pour écrire ce livre, Françoise Aigat se fait elle-même femme de ménage, afin de partager la réalité vécue par de nombreuses Antillaises employées comme domestiques. Elle y dénonce l'exploitation, le racisme, les humiliations quotidiennes subies par ces femmes, tout en gardant l'espoir d'une société plus juste, plus fraternelle. Aujourd'hui encore, Françoise Aigat est reconnue comme une voix majeure de la mémoire antillaise de l'après-guerre. À Marseille, son engagement a été commémoré et commémoré depuis 1988 grâce à ses enfants, très fidèles et qui font une bagarre, une grosse bagarre pour que ses actions soient reconnues, non seulement au niveau de Marseille, mais ça va plus loin. Il faut souligner qu'elle a été inscrite dans le... Il y a des femmes marseillaises qui ont fait un... On appelle ça ?
Dictionnaire.
Un dictionnaire, voilà. Un dictionnaire des femmes de la région. Et Françoise Aigat y est inscrite dedans.
Laissons la parole à ces deux de ses enfants, Christiane et Jean-Pierre, pour apporter peut-être des compléments, voire des corrections de cette biographie que l'on peut trouver dans le temps des Madras, notamment sur son engagement social. Pourquoi Françoise Aigat reste-t-elle encore peu connue ? Quels sont les ouvrages et ceux qui n'ont pas pu être terminés suite à sa disparition le 7 mars 1976 ? En quoi son témoignage est politique ? Avant de poursuivre avec Maryse Condé, nous allons écouter « Moin Domideo », interprété par Nidj.
Ah!
Demo 4 Powell sur les ondes de Radio Galère. Mandomi Dewa. Une chanson qui évoque l'exil, la précarité et ses vies souvent invisibles au sein de la diaspora. Des vies que François Zega a choisi de raconter et de transmettre avant qu'elles ne sombrent pas dans l'oubli. Avant de nous tourner vers l'autre grande figure de notre émission, à savoir Maryse Condé, on va interroger Jean-Pierre et Christiane sur la figure de leur mère et notamment une question. Pourquoi, selon vous, Françoise Zega reste encore peu connue et en quoi son témoignage est-il encore éminemment politique ?
Est-ce que Françoise est peu connue ? Je crois qu'elle est de plus en plus connue maintenant. Elle est peut-être méconnue plus qu'inconnue, si je peux décliner toutes les variétés du mot. Elle est de plus en plus connue, mais en fait, ce qui est intéressant surtout, c'est de savoir finalement ce qu'elle a pu écrire et en quoi ce qu'elle a écrit est important. Elle a écrit 4 œuvres, 4 récits qui sont intéressants. Moi, je suis prof de lettres et c'est un petit peu mon métier que d'en parler. Elle a écrit 4 livres qui sont intéressants dans le fait qu'ils marquent 4 étapes importantes de l'histoire de la Martinique. Le premier, Le temps des Madras, raconte la période finalement post-coloniale. On n'est pas encore à la départementalisation puisqu'elle est née en 1921. Donc, et Le temps des Madras raconte cette période-là. Et ce qui est intéressant également avec Le temps des Madras, c'est que c'est une espèce d'anamnèse, c'est-à-dire de retour en arrière, puisqu'elle va raconter non seulement la période où elle était enfant, mais également la période des ancêtres, c'est-à-dire les personnes qui sont décédées pendant l'éruption de la montagne Pelée, et on voit apparaître des pans de l'histoire de martiniquaise. Ça, c'est, je crois, l'aspect historique du texte. Le deuxième texte, Lettre à Noir aussi, s'impose dans une période où il est question du Bumidome. Effectivement, Jojo en a parlé tout à l'heure. Elle raconte effectivement une migration particulière qui est celle dont on parle très peu. Et ce qui fait le succès du livre actuellement, c'est que en littérature, c'est le seul livre qui traite de la période du Bumidome. Et de ce point de vue-là, c'est un témoignage. Voilà, ce n'est pas un roman, justement. C'est ça l'intérêt. C'est pas du tout un roman. C'est un journal. C'est un récit vivant, vécu. Ce n'est pas une fiction du tout. Et c'est pour ça une autobiographie, en réalité, de 2-3 ans, effectivement, de cette période-là, qui sont des périodes importantes.
Ouais. J'ai dit roman, mais je voulais plus dire le seul récit incarné. Plutôt.
Voilà, c'est un récit, oui, mais pas un roman. Voilà, ok. C'est un journal. Et le troisième texte qui s'appelle « L'Alizé ne soufflait plus », c'est un texte également important parce qu'il parle également d'une période d'histoire de la Martinique dont on parle peu. Il s'agit de la dissidence. La dissidence, qu'est-ce que c'est ? C'est ce moment où, alors que la Martinique était, n'est-ce pas, sous domination de la France, en particulier avec l'amiral Robert, les Martiniquais avaient donc l'obligation de respecter les lois de Pétain. Même à 7000 km, il fallait respecter les lois de Pétain. Et les Martiniquais avaient l'interdiction de quitter la Martinique pour faire quoi que ce soit d'autre que se soumettre. Or, beaucoup de jeunes ont quitté la Martinique à ce moment-là, se sont enfuis. Et lorsqu'ils étaient attrapés, il faut savoir que lorsqu'ils étaient attrapés, ils étaient fusillés. Ça aussi, donc c'était vraiment une question de vie ou de mort. Deuxième moment effectivement important, c'est qu'au moment où ils partaient en barque de pêcheurs, et ils traversaient le canal de la Dominique. Là aussi, deuxième moment où ils risquaient leur vie également. Donc il faut savoir vraiment qu'il fallait être extrêmement courageux pour se lancer comme ça de la dissidence. Et donc ce troisième livre qui s'appelle « L'Alizé ne soufflait plus » raconte la période de la dissidence, avec les jeunes qui partent. Mais ce qui est intéressant, finalement, c'est, encore une fois, c'est un témoignage, mais une fiction. En revanche, c'est une fiction, parce que ça raconte non pas l'histoire des hommes qui sont partis, mais l'histoire des femmes qui sont restées en Martinique. Et ça, il n'y a aucun texte qui raconte la vie, finalement, en temps Robert et en temps Sorin, en Guadeloupe. Et c'est un texte, donc, également, qui, d'un point de vue historique, a également son importance. Alors maintenant, d'un point de vue littéraire, ce sont 3 textes sont complètement différents. Le premier est un roman, le deuxième est un journal, et le troisième est une fiction, c'est un récit, c'est une fiction complète, même si c'est une demi-fiction, je dirais, parce que ce qu'elle raconte, finalement, de la vie des soldats martiniquais en France, au moment où ils arrivent en France, ce sont des histoires qu'elle a racontées à partir de ce que papa racontait, parce que mon père lui-même est parti en dissidence, effectivement, et il racontait très très souvent cette période de sa vie qui a été l'une des périodes les plus importantes, et le roman qui s'appelle « L'Alizé ne soufflait plus » est inventé à partir de ces témoignages, effectivement, de mon père. Voilà. Le quatrième, alors il faut parler également, donc il y en a 4. Le quatrième, c'est le pain des Magneux. C'est un conte provençal, et il est complètement surprenant parce qu'il n'a plus rien à voir avec les Antilles. Et quand on lit Le Pain des Magneux, jamais on n'aurait imaginé que c'est une Antillaise qui a raconté l'histoire. Ça aurait pu être aussi bien Colette que un auteur provençal, j'en ai plus en tête, Marcel Pagnol, voilà, Marcel Pagnol, Alphonse Daudet, etc. C'est pas du tout un récit antillais. Et maintenant, il faut savoir qu'il y en a deux autres qui ne sont pas encore publiés. Alors, l'un s'appelle L'Abricotine. C'est une surprise totale et absolue, parce que je l'ai lu, effectivement. C'est encore une fois une dimension où maman va écrire, d'un point de vue de femme, ce que c'est qu'être une femme, en fait, véritablement, dans un contexte un petit peu particulier, qui est le contexte, je dirais, du patriarcat. Ça aussi, c'est intéressant, finalement, de voir qu'à chaque fois, elle a écrit dans des registres qui sont complètement différents, mais toujours inscrit, je dirais, quelque part, dans une période historique de la vie des Antillais de France, même si L'Abricotine ne parle pas d'Antillais non plus. Et le dernier, dont elle a commencé le récit, s'appelle Dahomey. Il se passe au Bénin, enfin, Dahomey, c'est l'actuel Bénin, et elle a entamé le récit, mais elle ne l'a pas terminé. Elle l'a entamé parce que papa a été militaire, et ils ont vécu effectivement au Dahomey bien avant l'indépendance et bien avant l'apparition du Bénin.
D'accord, et ces deux ouvrages qui sont pas encore publiés, si j'ai bien compris, qui vont l'être du coup.
Ben, L'Abricotine, on espère bien qu'on arrivera à le faire publier parce qu'il est intéressant. Dahomey, non, il n'est pas terminé.
Non, d'accord.
Alors L'Abricotine, ça le sera forcément. Au regard de l'évolution des choses et de l'impact qu'elle semble avoir dans le milieu universitaire, L'Abricotine se sera certainement publié et la Lisée rééditée. Dahomey, c'est essentiellement 24 pages, donc c'est vraiment un roman, l'introduction. Voilà.
Très bien. Et juste par curiosité, c'est des manuscrits que vous avez découverts ? Vous êtes tombé dessus ou vous saviez qu'ils existaient?
On savait qu'ils existaient. Okay. On savait qu'ils existaient puisque maman écrivait en permanence. Elle avait des cahiers sur lesquels elle écrivait. Et après sa mort, les cahiers, on les a retrouvés.
D'accord.
Donc certains sont des tapuscrits parce qu'elle a eu le temps de les taper, effectivement. Les autres, L'Abricotine est un tapuscrit alors que Dahomey, c'est un manuscrit.
Quand je t'entends parler vraiment du travail d'histoire qu'elle a mené, moi ça me fait penser au travail de Confiant, à tout ce travail de Confiant qu'il a fait à travers ses romans, d'éclairer des zones de l'histoire, mais j'ai l'impression qu'elle allait encore plus profondément en éclairant encore plus des angles morts dans les angles morts de l'histoire du coup.
Oui absolument, parce que Confiant lui il a fait fondamentalement du roman, c'est-à-dire que la trame historique chez Confiant c'est vraiment un arrière-plan, alors que chez les textes de François Zéga c'est vraiment le premier plan, et ce qui est frappant véritablement, okay. Ce sont autant de témoignages historiques sous des formes littéraires différentes, mais ce sont des témoignages historiques.
Très bien. Merci. Donc, tournons-nous maintenant vers l'autre grande figure de notre émission. Oui, pardon. Ah oui.
Lecture d'un extrait.
Lecture d'un extrait, mais je voudrais lire cette préface inédite de Daniel Pénac, très court, pour situer François Zéga. Je suis un cobaye volontaire. Je rengaine mon envie de mettre mon tablier au mur et je recommence à brosser. Là, je me demande comment cela doit se passer pour mes sœurs. Qui n'ont nulle part où se réfugier en cas de révolte, qui sont obligés de rester nuit et jour en compagnie de telles bonnes femmes parce qu'elles ont un voyage à rembourser. 20 août 1962. Renélis veut prendre un peu de repos. Sa dame lui a demandé de lui trouver une remplaçante pour 10 jours. Alors elle est venue me voir, toute gracieuse, toute menue avec ses yeux d'ébène et ses longues tresses qu'elle porte en auréole. Si elle se coiffait différemment, elle serait du tonnerre. Bien sûr, elle m'a parlé de Fort-de-France, de ses parents à qui elle envoie un peu d'argent à la fin de chaque mois. Si j'étais à l'usine de Date ou d'Anchois, il me faudrait payer ma chambre, ma nourriture et tout, tandis que chez une dame, la mienne du moins, j'arrive à économiser quelque argent. Madame m'en donne toujours un peu plus. Je lui rends des services supplémentaires. J'ai accepté de remplacer Renélis pour 10 jours. Elle m'a dit tant de bien de sa dame que je me suis présenté pleine de bonnes intentions. J'ai compris que son mari faisait une cure à Vichy et qu'elle faisait le va-et-vient entre Carry-le-Rouet et Marseille, histoire de passer le temps. Elle a dit à un jeune homme, Surpris de me trouver ce matin un balai dans les mains, c'est cette dame qui remplace Renélis pour 10 jours. À mon adresse, elle a ajouté « C'est le neveu de monsieur ». Elle est mince et à l'allure sportive, madame. Ses cheveux noirs, nettement coupés, lui donnent un air sérieux. Et puis elle m'a laissé avec mes tapis et mon balai. Elle est partie avec son neveu. Au retour, elle m'a demandé si je le trouvais gentil, ce neveu. J'ai répondu que je n'avais pas fait attention.
Merci. Alors tournons-nous maintenant vers l'autre grande figure de notre émission, Maryse Condé, écrivaine au parcours remarquable, dont l'œuvre a acquis une reconnaissance internationale et qui fut à plusieurs reprises distinguée et nommée pour les plus grands prix littéraires. Mais nous n'en ferons donc qu'un bref rappel, puisque vous pouvez vous référer aux démos 4 paroles du vendredi 13 février relatives à Maryse Condé.
Maryse Condé, née Maryse Liliane Apolline Marcel Boucoulon, le 11 février 1934 à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, voit le jour où elle voit le jour. Elle grandit dans une famille appartenant à celle qu'on appellera plus tard un embryon de bourgeoisie noire. Très attachée à l'idéal d'assimilation, parler français de France, lire de la littérature française, adopter les codes culturels de l'Hexagone. Cette éducation la tient longtemps à distance de l'histoire sociale et populaire de la Guadeloupe. Pourtant, à l'époque, elle est traversée par de fortes tensions. En 1952, alors qu'elle a 15 ans, la Guadeloupe est marquée par la répression sanglante d'une grève ouvrière connue sous le nom du massacre de la Saint-Valentin de 1952 en Guadeloupe. Cet épisode révèle les profondes inégalités sociales d'un territoire pourtant devenu département français avec la loi de départementalisation du 19 mars 1946. À 19 ans, Maryse Condé part étudier à Paris, au lycée Fénelon, puis à la Sorbonne. Et c'est là que commence pour elle un long processus de désalignation intellectuelle. La lecture de La rue Casse-Nègre de Joseph Zoubel, puis du discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire, ainsi que la découverte de la pensée de Frantz Fanon et de son ouvrage « Peau noire et masque blanc » l'amène à interroger l'héritage colonial et l'illusion d'assimilation.
Christiane, tu as participé en Guadeloupe à l'hommage rendu à Maryse Condé par la case à Maryse. Peux-tu nous raconter l'atmosphère de ce moment et nous proposer en quelques mots un bref tour d'horizon de son œuvre? Nous aimerions aussi que l'on revienne sur son rapport à l'histoire coloniale. On sait que son départ pour la France a joué un rôle important dans sa prise de conscience.
Donc, quelques mots. Alors, la Casa Condé, effectivement, est une association qui a été créée par sa fille aînée, Sylvie-Anne, précisément Condé, qui vit en Guadeloupe depuis 2 ou 3 ans, effectivement, et qui a monté cette association. La Casa Condé a pour but, effectivement, d'entretenir la mémoire de Maryse, mais surtout de ses textes, la littérature, tous les textes qu'elle a écrits. Alors, maintenant, sur les 2 jours d'hommage qui ont eu lieu le 12 et le 13 février dernier, des universitaires ont été invités, universitaires qui l'ont connue et qui ont écrit effectivement sur son œuvre. Alors j'ai oublié les noms de ces universitaires. Alors aussi bien américains qu'africains, qu'européens également, tous sont des personnes qui ont écrit sur l'œuvre de Maryse Condé. Il y a eu également une partie qui était une partie musicale avec des chansons interprétées par... ça va me revenir. Voilà, Winnie Kaona, avec également des pièces de théâtre qui ont été effectivement interprétées à partir des œuvres de Maryse Condé. Le deuxième jour, effectivement, des interventions autour du thème de la déambulation. Déambulation littéraire, c'est la partie que j'ai eu à traiter, et déambulation physique, parce qu'il y a eu effectivement un détour par les rues de Pointe-à-Pitre qui ont permis d'une part de voir la maison où elle est née, puisque cette maison existe encore, découvrir également le pavillon de la ville où la fondation Casa Condé est située, et puis également découvrir à travers des extraits de ce qu'elle a écrit, découvrir Pointe-à-Pitre sous les traits de Maryse Condé, sous la plume de Maryse Condé. La deuxième question, c'était... effectivement, l'œuvre de Maryse Condé. Oui. Alors, Maryse Condé est un écrivain prolifique. Hein. Ah, elle a écrit, on ne le sait pas, elle a écrit plus d'une quarantaine de textes, dont quatre œuvres de littérature de jeunesse. Elle a écrit également des essais, en particulier La seule et pratique unique anthologie de littérature sur la poésie antillaise. Mmh. Et elle a écrit également des essais en français et en anglais, parce qu'il faut savoir qu'elle a vécu aux États-Unis quand même. Elle a été professeure à Columbia University. Voilà.
Pendant des années.
Elle est très, très particulière, Marie-Thérèse Condé, parce que le travail que j'ai fait s'appelle « Déambulation dans l'œuvre littéraire de Marie-Thérèse Condé », de ses goûts au fabuleux et triste destin d'Ivan et Ivana. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce qu'on découvre dans l'œuvre de Marie-Thérèse Condé, c'est qu'elle a été ce qu'on appelle une nomade, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est jamais resté très longtemps très longtemps, si tant est que 10 ou 15 ans, ce ne soit pas longtemps. Elle a vécu d'abord, effectivement, en Guadeloupe où elle est née. Elle est partie, donc, pendant ses études, elle a été scolarisée au lycée Fénelon. Et c'est à Fénelon, en fait, qu'elle a découvert Aimé Césaire. Le premier auteur qu'elle a découvert, c'est Aimé Césaire. Ensuite, elle a poursuivi ses études. Elle a ensuite fait la connaissance d'un Haïtien, Jean-Dominique, qui était journaliste, effectivement, dont elle a eu un enfant. Mais Jean-Dominique étant lui-même marié, il est parti en Haïti, où il est mort pendant une émeute. Suite à ça, elle a fait la connaissance, effectivement, de Mamadou Condé, qui était un homme de théâtre, effectivement. Mmh. Et donc, elle l'a épousé et elle est partie. Tout au long de sa vie, finalement, elle a vécu, je dirais comme ça, des phases. Alors, elle a une période antillaise, la première période. La deuxième période, c'est la période, je dirais, africaine, puisqu'elle a vécu au Ghana, elle a vécu en Guinée, elle a vécu au Sénégal, elle a vécu en Côte d'Ivoire, etc. Et elle avait pratiquement terminé ses études quand elle a commencé à enseigner le français dans tous les pays où elle a été. Et c'est pendant cette découverte de l'Afrique qu'elle a écrit. Le premier texte qu'elle a écrit, et moi j'ai découvert ce texte en fait en 1973, parce que j'étais alors en vacances en Martinique, et le Festival de Fort-de-France avait choisi une pièce de théâtre qui était interprétée par une troupe dont j'oublie le nom. C'était Erémaconon. Erémaconon a été republié après sous l'appellation En attendant le bonheur. Et en fait, Erémaconon raconte un petit peu sa vie. Encore une fois, même si elle a fait beaucoup, beaucoup d'œuvres qui sont des œuvres, je dirais, de fiction, elle n'a jamais été très, très loin, je dirais, dans son imaginaire de sa propre vie.
Tout à fait.
Quand on regarde un petit peu son circuit littéraire, son circuit de vie, son parcours de vie, ils sont complètement parallèles. Erémaconon raconte effectivement l'histoire, le deuxième également, une saison Ariata, raconte l'histoire d'une jeune Antillaise qui, étant tombée amoureuse d'un Africain, part en Afrique, d'accord, et tombe dans une désillusion totale parce que l'Afrique qu'on appelle la terre-mère, hein, etc. Entre parenthèses, il faut savoir qu'aux Antilles, on revient vers cette vision un petit peu mythologique, finalement, de l'Afrique. En tous les cas, ces héroïnes, arrivant en Afrique, finalement, découvrent d'une part qu'elles ne sont pas africaines. Quoi qu'on en dise, on a beau dire, n'est-ce pas, que nous sommes africaines, nous ne sommes pas africaines.
Elles sont noires, mais ça ne suffit pas.
Noires de peau, mais européennes de mentalité, de culture et de tradition et d'éducation. Notre éducation est une éducation européenne, c'est clair. Avec cette espèce de regard ouvert, plus lucide quelque part, elles vont découvrir l'Afrique avec tous ses travers, Elles en découvrent aussi bien, je dirais, les richesses que les déconvenues. Donc ça, c'est la partie africaine, je dirais, des textes. La deuxième partie, c'est la partie américaine. Et le texte le plus connu, quand je fais le test autour de moi, c'est bien sûr Moi, Tituba, sorcière noire de Salem. Les personnes qui connaissent Marie-Thérèse Condé la connaissent à travers ce texte-là, qui raconte effectivement l'histoire d'une jeune née sur une plantation à Barbade, qui bien évidemment une jeune esclave née sur une plantation à Barbade, est vendue ensuite, se retrouve après aux États-Unis, où elle va être violée par son maître, avortée parce qu'elle ne veut pas que l'enfant survive à ce viol. Ensuite, sera revendue à un juif dont elle aura des relations passionnées et passionnelles. Ensuite, va se joindre à un groupe de femmes pour échapper à sa condition d'esclave, qu'on va traiter d'esclave. De sorcière. Enfin, c'est un petit peu cette histoire-là. Moi, Tituba, c'est le texte le plus connu, mais elle a effectivement cette deuxième période qui est la période américaine, où elle va écrire, donc, en particulier, Moi, Tituba, sorcière noire de Salem. Et puis, je dirais que le troisième temps, elle va beaucoup écrire également sur l'Amérique du Sud, la Colombie en particulier, avec la colonie du Nouveau Monde. Elle va écrire effectivement sur la colonie du Nouveau Monde. Elle va écrire... j'oublie le titre du deuxième texte, c'est pas également l'Amérique du Sud. Mais ce qui est intéressant également dans l'œuvre de Marie-Thérèse Condé, c'est que bien qu'elle parle de l'étranger, elle parle toujours de la Guadeloupe. Et ça, je suis absolument fascinée par le fait qu'elle a cette capacité à ne pas oublier le pays dont elle vient. Ça, c'est la période effectivement américaine, mais elle revient après en Guadeloupe parce qu'elle a quand même cet ancrage profond, je dirais, qui apparaît dans sa littérature, cet ancrage profond avec la Guadeloupe. Elle revient en Guadeloupe pendant un temps. Alors, je n'ai plus les années en tête. J'aurais pu les chercher, mais je ne les ai pas là.
C'est la traversée de la mangrove.
Entre autres. Elle revient en Guadeloupe et sur le temps de la Guadeloupe, elle va écrire Désirada, elle va écrire La traversée de la mangrove, des œuvres qui se passent en Guadeloupe. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que sur le temps où elle est en Guadeloupe, elle se passionne pour la politique. Elle s'inscrit également dans un parti politique. Elle est sur une liste, effectivement, aussi indépendantiste, hein, avec les Oros, etc. Mais elle est très, très déçue par ce qui se passe en Guadeloupe, parce qu'elle trouve que les Guadeloupéens ne sont pas mûrs, n'est-ce pas, pour l'indépendance. Et cette déception fait que, finalement, elle décide qu'elle ne reste pas en Guadeloupe. Pendant ce temps-là, donc, ce que j'appelle dans la période antillaise, elle repart en France, d'accord. Alors, j'ai oublié de dire qu'elle a fait un parcours par l'Angleterre également. Elle retourne aux États-Unis. Et aux États-Unis, donc, effectivement, elle a cette période-là. Elle retourne en France et c'est là qu'elle va mourir, effectivement, en France. Mais tout ce qu'elle a écrit fait toujours un petit peu partie de son expérience personnelle, c'est-à-dire la connaissance qu'elle a, parce que je crois que ce qui est fascinant avec Maryse Condé, c'est que c'est quelqu'un d'extrêmement ouvert et d'extrêmement curieux. Et le fait de vivre sur un territoire, elle ne vit pas en touriste. Elle y vit, non pas non plus, je dirais, comme si elle était assimilée au territoire, mais à quelqu'un qui a une inquiétude de l'histoire des gens qui vivent sur le territoire. Et ça, c'est évidemment ce qui apparaît. Et son dernier texte, qui est sorti en même temps qu'elle a obtenu le prix Nobel alternatif de littérature, c'est le triste et fabuleux Divan et Divana. Mmh. Et dans ce dernier texte-là, ce texte-là est un résumé, je dirais, de tous les autres, quelque part, parce qu'elle va reprendre petit à petit chacun des moments, des romans. Voilà. Et enfin, pour terminer, je dirais aussi, ce qui est passionnant dans l'œuvre de Maryse Condé, c'est que ces livres s'inscrivent complètement dans l'histoire des diasporas noires. Elle commence effectivement à la période qu'on appelle avant la colonisation, précoloniale quelque part, alors que ça, c'est toujours intéressant aussi de voir comment le vocabulaire français est immergé dans une vision très européocentrée, parce que l'Afrique existait bien évidemment la colonisation. Or, on parle de l'avant-colonisation, de la pré-colonisation, on parle pas de cette période-là. Or, Ségou raconte la période, effectivement, au moment où la civilisation, ça se passe au Mali, effectivement, lorsque la civilisation africaine est à son apogée, où il y a des lettrés, où il y a des palais, où il y a de l'instruction, où il y a des gens cultivés, où il y a des cultures, des traditions et des histoires. Et vraiment, je crois que ce qui est intéressant à retenir de Ségou, c'est cette capacité qu'elle a à dire les choses du point de vue des gens qui habitent le territoire. Et ça, je trouve que c'est véritablement l'un des talents qu'elle a. Et puis, son œuvre, commence à la période coloniale, ensuite la période départementale, on la voit apparaître également. Et puis, elle continue avec le Bumidome, ça c'est Désirada qui raconte le Bumidome également d'une certaine manière. Ensuite, elle parle de la période américaine avec l'esclavage aux États-Unis. Elle parle également de l'Amérique actuelle. Elle parle effectivement après des Antilles. Et ce qui est intéressant dans le dernier roman, donc Le triste et fabuleux destin d'Ivan et Ivana, c'est que c'est un roman qui parcourt toute l'histoire de la diaspora à travers deux personnages qui sont les deux héros, Ivan et Ivana, qui s'inscrivent dans l'histoire du monde et de la diaspora parce que elle, Ivana, qui est une des jumelles, va vivre en France alors que lui, Ivan, retourne en Afrique et ils ont tous les deux des histoires qui sont des histoires tout à fait contemporaines. Mmh. Je crois que vraiment, c'est l'un de nos plus grands écrivains et... malheureusement, on ne la connaît que sous deux textes ou trois, La vie sans phare, Moi, Tituba, et puis également Victoire, Le savoir et les mots. Voilà, et je crois que vraiment, il faut la lire.
Merci beaucoup. Moi, ce qui me marque, du coup, même quand je t'entends parler, même en lisant les romans de Maryse Condé, c'est qu'effectivement, il y a ce truc de... En fait, j'ai l'impression qu'elle va beaucoup parler des endroits où elle va passer, mais j'ai l'impression qu'elle va beaucoup parler d'elle aussi.
Jamais.
Non ?
Non. Non, justement, elle a une capacité à se décentrer. Ou bien, si parler d'elle, c'est parler d'histoire de femme, oui, quelque part, elle parle d'elle. Mais parler d'histoire de femme, c'est pas parler de soi, forcément, parce que ces personnages sont tellement divers, tellement libres, ce sont des femmes libres. Même quand elles sont esclaves, elles sont libres. C'est un petit peu ce qu'elle dit. Alors, peut-être pour ça, on peut dire qu'effectivement, elle parle d'elle, parce que c'est une femme très,
quand
très libre.
Quand je dis elle parle d'elle, c'est-à-dire que c'est... J'ai l'impression que ces romans, c'est souvent des points d'étape sur son état de conscience à un instant T où elle est dans le monde. Et c'est pas forcément, c'est pas, elle n'est pas le sujet de ces romans, mais j'ai l'impression que quand on lit ces romans, on a sa vie, je ne sais pas comment dire, on a son parcours, on a son regard, ou l'évolution de son parcours et de son regard.
Ce n'est pas du tout le sentiment que j'ai, excuse-moi, je n'ai pas du tout ce sentiment-là. Je dis simplement qu'elle a cette immense curiosité qui fait que lorsqu'elle est implantée sur un territoire, elle a la curiosité de ce territoire-là. Mais ça lui permet justement de ne pas parler d'elle parce qu'elle parle du territoire sur lequel elle est avec une grande objectivité parce qu'elle parle de l'histoire du territoire. Et je dis que si elle parle d'elle, c'est uniquement parce qu'elle parle de femme. C'est là simplement que je reconnais peut-être cette assimilation. Mais elle a une telle capacité, je trouve, finalement, de distance par rapport à ses personnages, parce qu'il y a peut-être une particularité dans son histoire, dans son écriture aussi. Elle est capable de prendre la distance par rapport aux personnages, mais elle a cette faculté. C'est pour ça que la lire, c'est, je crois qu'il faut encore travailler. Elle est très, très étudiée à travers le monde. Hein. Il faut savoir qu'elle est traduite en 40 langues. Elle est étudiée dans toutes les universités du monde et sur tout le continent africain. Ce qui est intéressant, je dis, dans son écriture, c'est qu'elle ne parle pas d'elle, mais elle a cette capacité d'intervenir en ce qu'on appelle narrateur omniscient, c'est-à-dire qu'elle intervient à un moment donné et elle interpelle le lecteur. Au fait, est-ce que je t'avais dit que le Bumidum, c'était telle ou telle chose? Elle intervient comme ça, en point d'orgue, de manière un petit peu humoristique, je trouve, dans ses romans. Et c'est véritablement le talent qu'elle a.
Merci beaucoup. Alors, nous allons continuer avec une pause musicale. Non, on va finalement pas continuer avec une pause musicale. Nous sommes toujours sur les ondes de Radio Galère.
C'est la galère.
C'est la galère. Je vais retomber sur mes pattes.
Je propose une lecture, un extrait.
Allez-y. Voilà.
Je propose la lecture d'un extrait du premier roman de Marie Scondé qui s'appelle Les murailles de terre. Syra était seule avec sa peur et sa douleur. Peur, car l'année précédente, elle avait accouché d'un enfant mort-né. 9 mois d'anxiété pour mettre au monde une petite boule de chair à laquelle les dieux n'avaient pas voulu insuffler la vie. Pourquoi ? S'irritait-il de cette alliance entre nature, contre nature, entre une Peul et un Bambara ? Toi, Peul, garde ton troupeau. Noir, conserve ta bêche, celle qui fatigue. Ainsi dit le poème pastoral. Aucun lien n'était possible entre ces deux races d'hommes. Pourtant, elle savait bien qu'elle ne l'avait pas voulu elle-même et qu'elle n'était qu'une victime. Alors pourquoi la punir ? Et allait-il la punir à nouveau ? La condamner à cette attente stérile ? À un nouvel enterrement alors qu'elle souhaitait s'épanouir dans la gloire d'un baptême ? Elle regarda le monticule dans sa case, là où avait été enfoui le petit être aussitôt enlevé à son affection, et ses yeux s'emplirent de larmes. Que les dieux s'accordent la vie à son enfant, même si c'était celui d'un Bambara, d'un homme qu'elle aurait pu haïr. Et quelque part, cette introduction est une métaphore du roman, c'est-à-dire un pays qui va mourir, une civilisation qui va mourir, puisque va arriver finalement l'islam dans cette ère Peul.
Merci beaucoup. On va enchaîner avec Edith Lefel, Somnifère.
T'es que pour faire partie. Ça veut comme nous qui caressent qu'on est innocent. Oh, passé. Tout comme un famille qu'on pied bois, cyclone pas j'arrive et rachet. Respectez femmes, considérez c'était maman.
Toujours sur les ondes de Radio Galère. Derrière la douceur apparente de cette chanson se devine en réalité un écho à la condition de nombreuses femmes de la Caraïbe et de la diaspora. La fatigue accumulée, les luttes quotidiennes souvent invisibles, mais aussi la solitude que peuvent imposer les contraintes sociales, économiques ou migratoires. Cette réalité, nous la retrouvons très fortement dans l'œuvre de Françoise Héga. À travers ses écrits, elle donne une voix à ces femmes antillaises venues travailler en France, souvent employées comme domestiques. Dans le temps des madrasses, elle évoque déjà l'apprentissage précoce du courage et de la dignité dans une société marquée par les inégalités. Et dans l'être à une noire, elle va plus loin encore. Elle révèle le quotidien éprouvant de ces femmes devenues femmes de ménage, souvent corvéables, invisibles, mais pourtant essentielles à la vie sociale. Chez Marie Scondé, la perspective est différente mais la question demeure centrale. Dans ses romans, elle met en scène des figures féminines complexes, souvent rebelles, qui cherchent à se libérer des contraintes de l'histoire, de la domination coloniale ou des normes sociales. On pense bien sûr à Tituba, héroïne du roman Moi Tituba sorcière, figure de résistance face à l'oppression, mais aussi aux femmes des fresques historiques comme Ségou, qui traversent les bouleversements du monde avec force et lucidité. Vous l'aurez compris, nous abordons ici la question de la condition des femmes dans les sociétés caribéennes. Et si la trajectoire de Françoise Héga et de Marie Scondé sont différentes, leurs œuvres se rejoignent sur un point essentiel. Elles donnent à voir des femmes profondément résilientes. Chez Françoise Héga, ce sont des femmes courageuses, qui tiennent debout malgré la dureté du travail et les humiliations du quotidien. Chez Marie Scondé, ce sont souvent des femmes indociles, qui contestent l'ordre établi et cherchent à inventer leur propre liberté. Deux regards différents donc, mais une même volonté, rendre visibles les combats, la dignité et la force des femmes caribéennes. Christiane et Jojo, qu'en pensez-vous, par exemple, quant à l'exploitation du corps féminin ayant pour corollaire la domination? Selon vous, l'écriture est-elle devenue une arme ou enfin peut-on parler de féminisme caribéen?
Je ne sais pas si le féminisme est caribéen ou féminisme, c'est l'histoire de la femme.
J'allais dire la même chose que toi. Oui, féminisme sous court.
Oui, on peut parler de féminisme, même si certaines féministes noires revendiquent une particularité par rapport au féminisme blanc, parce que les luttes ne sont pas les mêmes. Hein. Bon, bien évidemment, quand on est une femme noire et quand on est une femme blanche, il est clair que le problème n'est pas le même. Ceci étant, pour revenir à Marie Scondé et à Françoise Héga, c'est clair que c'était des féministes avant l'heure. On ne parlait pas encore de féminisme en tant que tel. Hein. Le MLF existait, mais on ne parlait pas encore de féminisme. Mais il est clair que c'était des féministes. Hein. Je crois qu'elles se rejoignent complètement. Enfin, Jojo, tu me diras ce que tu en penses. Complètement, effectivement, sur leur conception de la femme. La femme, c'est quelqu'un de libre, c'est quelqu'un qui se bat, qui doit affronter des événements, qui doit affronter les aléas de la vie, mais qui attache son madras et entre dans le combat. Ce ne sont pas des femmes faibles, ça c'est sûr.
Et qui ne se laissent pas faire.
Absolument. Mmh. Ouais. Elles sont indomptables. Hein. Ce sont des femmes qui savent se battre, qui savent que la vie n'est pas un bol de tolomant, et elles affrontent ça, c'est clair. Mais ceci étant, il y a quand même une différence entre les deux, c'est le milieu dont elles viennent. Françoise Héga vient d'un milieu extrêmement modeste, Marie Scondé vient de la petite bourgeoisie guadeloupéenne, et ça donne deux visions complètement différentes et des parcours complètement différents. Marie Scondé s'intéresse finalement, je dirais, aux femmes en général, sans s'attarder à une classe sociale plus qu'à une autre. Elle s'intéresse à toutes les femmes, même si chaque fois pour elle, les femmes se sont des battantes. Françoise, elle s'intéresse véritablement aux femmes du peuple. Je crois que c'est la différence. Elles ne se sont pas connues.
Elle est ancrée là-dedans.
Absolument.
C'est son quotidien, donc, et elle veut en parler parce qu'elle voit justement qu'on ne parle pas de ces personnes.
Oui, tout à fait.
Ce que je pourrais dire, je n'ai pas d'analyse très, très, très haute, ce n'est pas du haut vol, mais ce que je peux dire en parlant de ma mère, c'est que déjà, elle a perdu son père, elle était jeune, c'était l'aînée de la famille, donc, et elle a toujours été engagée puisqu'elle était guide. Dans les années 68, donc, c'est vrai qu'elle était encore plus galvanisée par le mouvement féminin. Mais ce que je pourrais dire, c'est ça que je reconnais à ma mère, c'est cette capacité à rassembler. Et des femmes de milieux totalement différents. Je me rappelle d'une ancienne prostituée qui côtoyait ma mère, qui venait, qui est Madame Héga. Elle était très proche de ma mère. Elle avait un œil crevé. Son mari la battait. Et ma mère l'avait plus ou moins soutenue dans son indépendance. Mais elle avait aussi la capacité de se retrouver avec la femme de tel ou tel militaire de carrière qui avait un côté un peu bourgeois. Elle fréquentait donc des femmes, toutes les classes populaires de la Busserine, Madame Chambel, Madame Da Silva. Elle se reconnaissait, toutes les femmes se reconnaissaient en elle, et des femmes de milieux totalement différents, donc qui avaient cette proximité avec elle.
Merci. Passons maintenant, vous le voulez bien, à la lecture d'autres extraits choisis de Françoise Héga ou de Marie Scondé.
Toi, Françoise, et moi, Marise.
Françoise Héga, donc, extrait du temps des madras. Chapitre 3. Non, 7, excusez-moi.
12.
Mes lunettes, Alors, après les élections, nos écoles furent gratifiées de cartes de géographie, accrochées au mur entre les pots en bambou remplis d'hibiscus. Elles étaient le centre de mes préoccupations et de mes rêveries. Celles des chemins de fer me fascinaient. Le cercle noir d'où partaient les pattes de l'araignée portait un nom magique, Paris. Il s'élargissait dans ma tête, prenait des dimensions fantastiques. Je voyais des gouverneurs casqués de blanc et galonnés d'or sortant de rutilants palais. Les dames blanches et blondes, comme des fées, avec d'immenses capelines de dentelle, marchant dans les rues sans cailloux, bordées de trottoirs, pavés d'argent. Je voyais aussi tomber la neige. Je me la représentais pareille à des nuages blancs et roses se balançant dans un ciel plus bleu que celui de mon pays. Cette carte me faisait perdre l'appétit. J'en parlais à ma mère en rentrant de l'école. Elle m'expliqua que les pattes de l'araignée véhiculaient des trains, des voitures, bien plus longues que l'étoile du Nord. C'était très difficile à comprendre, d'autant qu'Urarde, pensait qu'il s'agissait d'une sorte d'accordéon géant et Armand ajoutait à mon désarroi en discourant sur la vapeur. Personnellement, je voyais des wagons biguignés sur des chemins pleins d'oiseaux siffleurs. Ma mère ne s'habillait plus de noir, 16 heures par jour. Elle portait le demi-deuil. Sa silhouette est légère, continuait à se profiler entre son potager, l'église et sa case. Suprême coquetterie, dans la maison, elle avait mis une berceuse. Elle pouvait reposer sa nuque fatiguée les soirs de veille où elle faisait des montagnes de boutonnières. Dans le village, on disait « Foutfemme la niqueur ».
Oui, après un portrait de...
Je voudrais faire une petite précision sur la remarque que tu as fait au fait qu'elle est, elle est passée au demi-deuil. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les sociétés antillaises, alors ça s'est perdu maintenant, mais dans les sociétés antillaises, quand on était veuve plutôt, ou qu'on avait perdu un parent, on s'habillait tout en noir, mais vraiment tout en noir. Même les enfants portaient le deuil aussi. Et donc, alors je ne me rappelle plus combien de jours on devait faire ça.
Le deuil noir, 2 ans, et après demi-deuil.
Et après, on passait au demi-deuil, c'est-à-dire on pouvait mettre du blanc ou du bleu marine. Et on appliquait vraiment cette façon de faire, à tel point que je me souviens, quand j'étais lycéenne, il y avait une prof qui avait perdu son mari. Et c'était une prof métropolitaine, et évidemment, elle n'était pas habillée en noir. Et nous, on la critiquait, comment elle est en deuil, elle a perdu son mari, elle ne se met pas en noir. Enfin, c'était extraordinaire qu'elle ne se mette pas en deuil. Voilà pourquoi.
Oui, effectivement, ce sont des sociétés matrifocales, hein, de toute manière, quelles qu'elles soient, celles que raconte Françoise sur la Martinique et celles que raconte... Marie Scondé, effectivement, aussi, là, dans l'extrait que je vais lire, qui est Désirada. Désirada, c'est l'histoire de 3 femmes sur 4 générations, pardon, sur 4 générations de femmes. On voit apparaître la grand-mère, on voit apparaître l'aïeul, la grand-mère, la maman, la fille. Et ce qui est intéressant dans Désirada, c'est l'un de mes romans préférés, c'est pour ça que j'en parle, ce qui est intéressant, c'est que ce sont 4 femmes qui ont vécu des moments qui étaient liés, encore une fois, à la période historique, qui ont vécu des choses absolument abominables, hein, je crois que, bon... Donc ici, les questions de Marie-Noël, qui est le personnage central, et c'est elle qui va connaître la période contemporaine complètement. Alors, ce que je veux dire également, c'est que l'extrait que je vais lire là aussi raconte une période que j'ai connue en Martinique avec ma grand-mère qui n'avait pas d'électricité. Hein, dans les années 70, elle n'avait pas
la lampe à pétrole.
Voilà, exactement. Et puis, voilà, la tinette, tout ça. Parfois, la nuit, en attendant Stanley, Marie-Noël rêvait sa mère. Elle la rêvait avec tendresse et pitié. Elle oubliait l'endroit où elle se trouvait, le temps, le moment. À Nice, dans un meublé sans confort, perdu dans un lit aux draps plutôt gris. Son imagination l'emportait entièrement. Il lui semblait qu'elle laissait son corps derrière elle, comme la peau d'un Jean Gagé, et qu'elle vivait dans une Guadeloupe inconnue, quelques 20 ans plus tôt. Rinalda, sa mère, était arrivée à la pointe à ses 10 ans, petite fille gringalette, sans beauté pour personne, et tout de suite, elle avait haï la pointe et la vie qu'elle y menait. Pas d'arbres ni de feuillage. Partout, des constructions serrées les unes contre les autres. Des rues enchevêtrées. L'odeur suffocante de la poussière. La maison de la rue de Nozières, si elle était vaste et bien située, datait du début du siècle. En conséquence, elle ne possédait aucun des conforts des temps d'aujourd'hui. C'est Giancarlo Copino qui, au moindre frais, y avait fait installer l'électricité et venir l'eau courante. Pour se laver, la famille se serrait dans la salle de bain rudimentaire, contenant une baignoire en zinc, des cuvettes et des brocs, coincés entre 2 chambres à coucher au premier étage. Nina et Rinalda, quant à elles, se lavaient en bas, dans ce qu'on appelait la casa eau, une cahute en tôle encombrée de seaux, de balais et de brosses où un robinet gouttait au-dessus d'un bassin. Chaque matin, Rinalda faisait mousser le morceau de savon de Marseille et se frottait tout le corps, longuement, interminablement, dans l'espoir de se purifier de la nuit. Ensuite, elle montait s'habiller et comme Nina s'affairait déjà, toute à Arcania, elle portait sa tête à tante Lia qui avait mission de peigner tous les enfants de la famille. Tante Lia et tante Zita occupaient la même chambre et dormaient sur des lits à une place à la manière de deux adolescentes. Tandis que Zita gardait les yeux fermés, la tête sur l'oreiller, tante Lia, dans sa chemise de nuit de coton agrémentée d'un rang de dentelle autour du cou, s'asseyait dans un fauteuil à dos raide et se penchait sur les fillettes assises à tour de rôle entre ses jambes. Récit de femme.
Merci beaucoup. Alors on va enchaîner avec une nouvelle pause musicale. C'est le morceau L'air de rien, et si je prononce mal le nom du groupe, il faudra me reprendre de causer. Mosaïka, un groupe composé exclusivement de femmes guadeloupéennes. Leur présence n'est pas un hasard. Elle fait écho à la symbolique du 8 mars, journée dédiée aux luttes, aux voix et aux créations des femmes. Nous avons parcouru aujourd'hui deux trajectoires, deux parcours singuliers, deux femmes aux horizons différents, mais portées par une même exigence, dire et affirmer la dignité caribéenne. À travers leurs mots, leurs combats et leurs œuvres, elles nous rappellent combien la mémoire, la culture et la parole sont des forces vivantes. Jean-Pierre, peux-tu nous présenter la programmation de cette initiative portée par le comité Mamega et qui commence aujourd'hui, en ce vendredi 13?
Donc aujourd'hui, vendredi 13, donc, nous avons eu droit au spectacle Résonance par Yuri et sa compagnie théâtrale. Donc c'était un spectacle qui s'adressait à un public scolaire. Ensuite, nous avons eu l'accueil du public. et avec un petit buffet participatif et la présentation donc de l'actualité internationale de François Degas par Maria Clara Machado et moi-même, donc à partir d'un PowerPoint, donc des faits sur tout ce qui s'est fait depuis 1980 à 2026 autour de François Degas. Donc ceci a été accompagné d'une soirée musicale et acoustique et lecture de textes, donc où nous avons été à la rencontre de cette femme de culture, puisqu'il faut savoir que François Degas connaissait aussi la scène, puisqu'elle avait un groupe folklorique au moment de l'AMITAG qui s'appelait donc les Graines d'Or. Elle était sur scène et donc elle nous apprenait la culture antillaise. Donc voilà. Donc à travers ce moment beaucoup plus léger, nous avons été à la rencontre de François Degas, donc avec des musiques qui lui parlaient, puisqu'elle était très solidaire donc de la communauté africaine. Elle se sentait concernée par toutes les injustices, et notamment celle de l'Afrique du Sud et celle autant de l'apartheid et de l'apartheid et la ségrégation, donc du gospel pour pouvoir appeler cette période-là, et parler aussi de sa foi, donc l'importance de sa foi. C'était elle se réfugiait, ou elle se retrouvait en tout cas dans sa foi, c'était son énergie. Donc une déambulation à travers la musique brésilienne aussi, en écho à sa sœur Carolina Maria de Jesus, avec des extraits des trois ouvrages de Carolina Maria de Jesus, Ma vraie maison, le journal de Bichita et le dépotoir. Et donc, en écho à cela, le temps du Madras, la lisée ne soufflait plus et l'être à une noire. Donc, un moment un petit peu intime et beaucoup plus léger que la seconde partie qui aura lieu demain, donc avec Christiane Thompson comme modératrice et donc la participation d'universitaires venus de Francfort, venus du Brésil et venus de Paris. Paris, donc Jair Silva da Silva était à l'initiative du colloque international qui a eu lieu à Sao Paulo au mois d'août dernier. Donc nous remercions vivement ce public qui est venu, il faut le dire, à titre gracieux, donc des gens qui se sont déplacés de loin, voire de très loin, pour participer à cette commémoration, cet anniversaire. Et donc pour 10 minutes d'intervention, les gens se sont déplacés. Donc tout autour de François Degas est magique, que ce soit ce qui se passe aujourd'hui, donc 50 ans après, que ce soit le moment de son décès, puisqu'elle est morte un jour en 1967 dans une chapelle, dans une église, après avoir pris le corps du Christ. Et justement, ce jour-là, elle était aussi révoltée parce qu'elle a vu des petits enfants antillais qui étaient derrière la grille de l'église et qui assistaient à aller à la messe. Ceci l'a profondément contrariée. Il y avait deux messes, une cérémonie pour les enfants, une cérémonie pour les adultes, et elle est allée babiller le prêtre. Joël Chambel s'en souvient encore, et lorsqu'elle est retournée donc pour la suite de la cérémonie, elle a dit à ma sœur Christiane qui est présente, je vais tomber, et on a essayé de la réanimer. Donc tout dans sa vie est extraordinaire. On pourrait faire effectivement une pièce de théâtre, c'était prévu, et peut-être même un film un jour, qui sait. Donc sa mort était extraordinaire aussi, puisqu'elle a été transportée à Dodome dans la Busserine. La rue était noire de monde, des centaines de personnes qui l'ont porté. Je n'ai jamais vu d'enterrement de commun de mortels avec une telle résonance, un tel écho. Et il faut savoir que chacun se retrouvait dans ma mère et avait l'impression qu'elle lui appartenait un peu. Alors qu'à nous, ses enfants, elle ne nous a rien volé. Donc du coup, elle avait une énergie exceptionnelle, mais elle est partie usée, fatiguée. D'ailleurs, ici, parmi nous, il y a des gens qui peuvent parler, témoigner, puisque Jo Bapin, je me souviens, qui était à l'époque étudiante, je crois, qui venait à la maison, le petit nom que ma mère avait donné à Jo, c'était Tibagaï. Donc c'était un nom très affectueux, et Jo peut nous dire quels sont ses souvenirs d'elle.
Oui, tout à fait. Quand je suis arrivé sur Marseille, on m'a tout de suite dit, il y a une dame, il faut que tu connaisses cette dame-là, il y a une dame antillaise qui est très intéressante, qui est très ouverte, il faut absolument que tu fasses sa connaissance. Et donc j'avais demandé un peu où elle habitait, comment. Et un dimanche, effectivement, je suis allé la voir et j'ai été, pas surprise, mais agréablement de l'accueil. C'est vrai que c'est une femme très ouverte, sa porte ouverte à tout le monde.
Chaleureuse.
Chaleureuse, voilà. Qui t'accueillait, te pose des questions, qui ne te jugeait pas. Et les fois où je suis allée, je me suis aperçue qu'il y avait un peu tout le monde qui passait, quoi. Il y avait le voisin qui venait pour qu'on l'aide à remplir un papier. Il y avait l'autre qui avait besoin qu'on lui écrive une lettre parce que son mari était en prison. C'est vrai que c'était une femme chaleureuse. Et j'avais assisté aussi à ce combat qu'elle avait mené avec d'autres par rapport à l'école. À l'école qui était en préfabriquée, je me souviens. Elle criait bien fort.
Ses combats étaient multiples, c'est vrai. Parce que il y avait aussi son combat, son engagement pour Yvon Le Borgne, un professeur de philosophie, donc, qui était sur la Ciotat, je crois. Et donc, à Cannes. Donc, elle soutenait. Et Guy aussi, qui est présent ce soir, peut nous parler d'une autre période, puisque c'était Guy est mon aîné, légèrement plus vieux, même si cela ne se voit pas. Et donc, lui, sa famille a connu ma famille très tôt, bien avant ma naissance.
Oui, je crois que c'est une vieille, très vieille histoire, puisque Franz connaissait mon papa de Martinique. Et je vais encore raconter l'histoire rapidement. Donc, il connaissait Franz de Martinique. Et maman est venue sur le bateau,
le Colombie.
Elles sont venues toutes les deux sur le Colombie.
Alors, il faut expliquer qu'à cette époque, il n'y avait pas les avions.
Voilà, oui, il n'y avait pas d'avion, bien sûr.
Il y en avait très peu. Et que les voyages se faisaient en bateau. Il fallait compter minimum 10 jours.
10 jours, oui. Ouais. Ouais. Et oui, c'était le Colombie. Donc, maman se rappelle encore que, j'allais dire Tata Ega, puisqu'on l'appelait comme ça, s'était arrêtée à Paris. Et maman était descendue à Marseille, accompagnée par un antillais que j'ai vu quelques années et qui est décédé, qui l'avait amenée à Marseille. Et donc là, elles ont mené leur vie chacune de leur côté. Et un jour, elles se rencontrent au marché du poisson, au Halles. C'était le rendez-vous des Antillais. Elle lui dit, mais ça y est, tu es à Marseille, oui. Et donc, je suis mariée, viens me voir, il y a mon mari. Donc, elle cherche Franz, ma mère cherche mon père. Et quand ils se revoient tous les quatre, il dit, mais c'est toi qui es mariée. Voilà, donc, et c'est reparti comme ça. Et si je situe, c'était avant qu'ils partent tous les deux pour Madagascar. Voilà, Jean-Louis est né en 52, voilà. Et donc, voilà, notre vie a été comme ça. Donc, on a vécu à côté pendant de très nombreuses années. Et bon, bien sûr, quand...
Où ça ?
Aux Olives. Donc, d'abord dans la rue... à côté de la rue Longue... De la rue des Petites Maries. Des Petites Maries. Et quand je descends, je repasse cette porte d'entrée parce que je me rappelle, il y avait deux grosses marches. Voilà. Alors, je passerai l'anecdote de Jean-Pierre qui se promenait, qui s'est échappé de la maison. Voilà. Donc là, on n'en parlera pas. Et ça marquait suffisamment de monde. On le situe. Et donc, voilà, notre vie était comme ça. Après, ils sont venus habiter à Sainte-Marguerite. À Sainte-Marguerite. Et après, aux Olives. Donc, et aux Olives, c'est là qui. Oui, c'est la Marguerite. Voilà. Et après, aux Olives, et où on a vécu jusqu'en
69. Voilà. Juste avant de venir au quartier de la Bessurine. Voilà. D'ailleurs, cette période des Olives est assez. A imprégné ma mère, puisqu'elle était.
La ferme Magnan, etc. Voilà.
Et voilà. D'ailleurs, le conte qu'elle a écrit, Le Pain des Magneux, ce n'est qu'une une déformation du nom Magnan. Magnan, qui était un paysan, qui avait une ferme.
Propriétaire, terrier, voilà. Ouais.
On allait prendre le lait
le matin, voilà.
À côté des olives.
Voilà, aux olives, c'était aux olives.
Aux olives.
Ouais, aux olives. C'était un paysan Magnan qui avait tout un terrain important.
Voilà, donc c'est vrai que, j'allais dire, moi je l'ai connu de l'intérieur. Donc ses réactions, ses colères, ses explosions, je l'ai connu de l'intérieur. Voilà.
Et ah oui, maintenant que tu parles de la colère, je me rappelle une fois, un dimanche, je suis arrivée, elle était en folie parce que eux, ils n'avaient pas fait le ménage. Et elle envoyait les chaussures. Oh
ouais. Oui, et puis j'ai donc le souvenir qui est remarquable, c'était qu'elle remplissait ses cahiers. Voilà, donc avec ce bic cristal, la bleue, et c'est ça, et la pointe bic, enfin, cristal. Et donc je la voyais écrire comme ça, et puis elle se levait, elle faisait des affaires, et puis elle revenait, et puis elle couchait des lettres sur ses papiers. Alors
je me demande comment elle a fait pour faire tout ça.
Voilà, mais je pense qu'elle arrivait à s'isoler. Voilà,
la nuit quand on dormait.
Mais oui, mais moi je te dis, c'est la journée, l'après-midi, je l'ai vu écrire comme ça. Voilà, donc, et je me demandais ce qu'elle pouvait écrire. Ce n'était pas des listes de commissions, c'était elle écrivait. Donc c'est vrai que nous, on n'était pas une famille d'intellectuels, puis c'était quand même surprenant de voir quelqu'un qui couchait des lettres sur des feuilles de papier blanc, là, comme ça. Voilà. Donc, voilà les souvenirs que j'ai. J'ai souvenirs d'intimité, j'allais dire. Je veux pas m'immiscer dans votre vie, mais enfin, on a partagé suffisamment de moments intimes. Et c'est vrai que c'est qui parlait tout à l'heure de cheveux. Je l'ai vu, moi, à la maison, comme ça,
sans sa perruque.
Mmh. Voilà. Donc, je crois qu'il y a peu de gens l'ont vu comme ça.
Tout à fait.
Tout à fait. Donc, j'ai partagé. Donc, je me rappelle de Christiane au piano, etc. c'est des moments qui me sont très chers et puis qui ressurgissent par moments, comme je dis quand j'étais dans la rue des Petites Mariées. Voilà, donc
c'était quand même assez invraisemblable de voir quelqu'un à cette époque écrire des livres avec la prétention, on va dire, de pouvoir... parce que c'est tout un combat. Je me rappelle avoir fait donc déjà, elle se faisait relire, d'abord un peu par mon frère Jean-Luc, et puis après par le docteur Monroe. Elle avait tout un cercle d'intellectuels autour d'elle qui faisaient des lectures, mais c'était quand même peu vraisemblable d'arriver à une... Et je me rappelle l'avoir vu faire des va-et-vient à Paris pour pouvoir trouver un auditeur. Oui, ça a été la galère avant qu'elle trouve la première éditeur. Premier éditeur qui était...
Édition Maritime et d'Outre-mer.
Oui. Alors juste avant de terminer cette émission, je vais vous laisser le mot de la fin à Jojo et Christiane. J'ai juste une petite anecdote, moi, à raconter de mon côté. La première fois qu'on a discuté, toi et moi, de Françoise Zega, tu m'as dit que, en fait, tu venais d'arriver... Enfin, tu étais arrivé à Marseille, tu cherchais à savoir... Et qu'on t'a directement dirigé, on t'a dit, cette femme qu'il faut que tu rencontres.
Cette dame, il faut que tu la reconnaisses, il faut que tu la rencontres.
Et il se trouve que moi, je suis arrivé à Marseille, c'était en 2013. Et j'ai rencontré, donc là, c'était une militante de Marseille qui s'appelait Siam, qui était animatrice ici à Radio Galère, qui était d'origine algérienne. Et on se rencontre dans une manifestation et on discute. Et puis, au bout d'un moment, elle me dit « Mais tu viens d'où ?» Je lui dis « Je viens de la Martinique. » Et le premier truc qu'elle me dit, c'est pas « Il faut que tu rencontres Françoise Zega », parce qu'elle n'était pas vivante à ce moment-là, mais elle me dit « Il faut que tu lises ce livre-là ». Et on s'est redonné rendez-vous après, et elle m'a donné le livre Françoise Zega. Donc c'était avant, je connaissais même pas votre existence, je connaissais pas le comité Maméga. Mais en fait, ce qui m'amuse, c'est que des années après, des décennies après, on m'a suggéré de rencontrer Françoise Zega, alors qu'elle n'était plus de ce monde.
Il faut savoir que dans le milieu antillais, toute la communauté antillaise de Marseille et de la région, puisqu'elle faisait partie des provinces françaises, et il y avait donc des rencontres avec plusieurs villes, Nice, tout Toulon, et il y avait des rencontres, des échanges. Et donc toute la communauté antillaise engagée, à ce milieu associatif, connaissait ma mère, mais aussi tous les étudiants. Mais pas que, les dockers venaient aussi à la maison. Je me rappelle qu'il y avait des dockers comme Joby, des gens qui venaient, il y avait Gersen Contat. Elle était vraiment, elle était comme une pieuvre tentaculaire et de tous, quels que soient les milieux, beaucoup aussi de militaires, la famille Mathias, la famille Loury, la famille Ruster, c'était vraiment impressionnant. On ne pouvait pas venir à Marseille sans connaître Madame Zega et son mari.
Et ce que tu dis ne m'étonne pas du tout parce que effectivement, elle était ouverte à beaucoup de gens. Et Jean-Pierre l'a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'à son enterrement, c'était phénoménal. On aurait dû une personnalité, je veux dire, parce que tu avais les gens du quartier, Comoriens, Algériens, tous Africains, tous, ils étaient derrière, mais ils étaient peinés, parce que pour eux, ils avaient perdu quelqu'un.
Il faut savoir quand même que l'enterrement de maman a été payé complètement par la communauté marseillaise, puisque finalement, il était clair pour nous qu'il fallait qu'elle parte, que son corps parte en Martinique. Et il était clair qu'on n'en avait pas les moyens. Donc les gens, sans qu'on leur demande quoi que ce soit, se sont mobilisés pour payer effectivement l'enterrement et le transfert du corps effectivement de Marseille vers la Martinique.
Et du coup, avec cette fameuse lettre qu'on retrouve dans cette édition de Lettres à une Noire.
Tout à fait, le message qu'il y a dans le livre « Les Lettres à une Noire », écrit par Jacques Marty. On avait même parlé...
écrite par Jacques Marty.
Et Jacques Marty. Jacques Marty et d'autres habitants du quartier, dont, notamment Myriam Vinotti. Il faut savoir qu'on avait même parlé à l'époque que Myriam Vinotti était à cette initiative de la faire sanctifier, béatifier. Donc du coup, nous c'était notre mère, la sainte. Ma maman c'est pas une sainte. Mais bon, on y a. D'ailleurs, c'est elle qui me donnait des coups de bâton. Le bon Dieu ne l'aurait peut-être pas pardonné tout ça. Mais on y a pensé quand même. Donc, et c'est vrai que les saints ce sont des êtres humains et que on y a pensé.
Je doute fort que le pape entre dans cette affaire-là. Voilà. Moi, ce que je voudrais dire quand même, c'est que il n'y a pas de le caractère que nous avons les uns et les autres, je crois, n'est pas un fruit du hasard. Nous sommes les produits quelque part de l'éducation que nous avons reçue avec nos mères, avec notre mère. Jean-Luc et moi, nous sommes devenus profs. Je crois que c'est pas un hasard. Jean-Pierre, Jean-Marc sont éducateurs, c'est pas un hasard. Et Jean-Michel aussi, avec son caractère bien trempé aussi, un homme libre aussi, même s'il faut aller au-delà, n'est-ce pas, de la loi pour arriver à s'imposer. Nous avons tous un petit peu pris d'elle cette manière d'être. Moi, je sais que ma passion des livres, c'est qu'il y a toujours eu des livres à la maison. Je ne sais même pas comment elle faisait pour acheter des livres, mais on avait des bibliothèques. On avait une bibliothèque à la maison et il était clair que rester avec Françoise, ça veut dire à un moment donné prendre un livre. Il était inimaginable pour elle de dire tu t'ennuies. Si tu lui dis tu t'ennuies, elle te dit prends un livre. C'était clair et net.
D'ailleurs, pour ma mère, elle disait que l'instruction est la seconde porte après l'abolition de l'esclavage de notre liberté. Donc l'éducation était un moyen pour elle de réussir. Elle ne nous a pas donné du poisson, mais elle nous a appris à chacun d'entre nous à pêcher et elle nous a donné cette assurance que l'on peut retrouver dans nos caractères. Mais il faut savoir que nous cinq réunis, nous n'avons pas l'énergie qu'elle pouvait avoir à une seule personne.
Ben ça y est, hein, il a dit le mot de la fin.
Moi, je dirais que quand même, ce qui est impressionnant pour moi, c'est ma mère, bien sûr, c'est le fait que je découvre la femme qu'elle était. Parce que quand elle est décédée, j'avais 20 ans. C'était d'ailleurs la semaine de nos anniversaires, à Jean-Marc et moi, d'ailleurs. 20 ans pour moi, 21 pour Jean-Marc, ou 22. Et ce qui est frappant, finalement, c'est que je crois que, personnellement, je ne mesurais pas l'ampleur de la femme qu'elle était. Je crois que je ne l'ai compris que devenue adulte. Quand j'avais 50 ans, peut-être qu'à ce moment-là, je me suis posé des questions sur tous les retours qu'on avait de la femme qu'elle était. Et moi, quand j'étais gamine, j'adorais écrire dans mes... Quand on demandait la profession des parents, j'écrivais écrivain, même si en réalité, je n'y croyais pas trop. Et c'est devenu adulte, réellement, je répète, que, et devenu prof de lettres aussi, que j'ai relu ces textes et que j'ai découvert que non seulement elle était écrivaine, mais que c'était un écrivain de talent, parce que je ne connais pas non plus en littérature beaucoup d'écrivains qui étaient capables de passer comme ça d'un style littéraire à un autre, d'un genre à un autre, et avec cette même sincérité, quel que soit le texte. Ouais.
Merci beaucoup. En guise de conclusion de cette émission, place à la musique avec Eloao. À nos deux grandes dames à qui nous rendons hommage aujourd'hui, où qu'elles soient, leur présence continue de nous accompagner. C'est avec elles en pensée que nous poursuivrons le voyage. Et nous n'oublions pas non plus toutes celles et tous ceux, amis, frères et sœurs, qui nous ont quittés ou qui nous quittent. Patrick Sotelo.
Mwenka mantele reponde Mwenka kriye le temps
Jodi la memwa, kanouri l'espoir, benedisyon di siel e loa, sur pou voyage di loa o, oh, o oh, le le le, le la le la la, o oh, le le le, le la le la la, e loa o, oh, pou ka voyage, benedisyon di siel e loa, sur ka voyage di loa o, oh. Pour nous fait pas toujours l'espoir.